Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 10 de la Sainte Sourate Balad. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Non, j'en jure par cette cité. Or, c'est comme citoyen que tu es dans cette cité, et par l'engendreur et ce qu'il engendre. Très certainement, nous avons créé l'homme en lutte. Compte-t-il que nul ne sera capable contre lui? Il dit, « J'ai gaspillé beaucoup de biens. » Compte-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres, et nous l'avons guidé aux deux voies.
« Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 9 août 2021. J'ai le plaisir de vous présenter tout de suite le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Iran, pays des merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé notre visite dans la province de Charmahal et Partieri. La randonnée de cette semaine vous emmènera à vous promener dans la belle nature de cette province. Vous allez connaître les tribus de cette province et leurs coutumes. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Charmahal et Bakhtiari est l'une des 30 provinces d'Iran. Elle est située dans le sud du pays et sa capitale est Shahrekord. L'histoire de la province est liée à celle de la tribu Bakhtiari qui descend du peuple Lor. Les Bakhtiari peuvent être divisés en deux sous-tribus, les Haftlang et les Charlang, qui ont elles-mêmes des variantes territoriales. Le territoire Bakhtiari, à une certaine époque, s'étendait aussi sur les provinces du Fars et du Khuzestan. La province est dotée de plusieurs traditions uniques liées au style de vie tribaux. On peut noter, par exemple, des formes spécifiques de musique, de danse et de vêtements. Les Bakhtiari sont une tribu d'Iran méridional, habitant essentiellement dans les provinces iraniennes du Lorestan, d'Ilam, de Charmahal et Bakhtiari, Kokiluyeh et Boyerahmad, ainsi que dans certaines parties du Khuzestan, et plus précisément dans les régions montagneuses du Zagros, dans le sud-ouest de l'Iran. 1 600 000 personnes appartenant à différentes tribus Bakhtiari vivent actuellement en Iran. Cependant, seule une minorité d'entre elles continue de pratiquer le nomadisme. Le mot Bakhtiari apparaît pour la première fois dans l'ouvrage de Hamdullah Mostofi, le Tarikh-e Gozide, sélection d'histoire. Il y emploie ce mot pour désigner le peuple lor. Selon lui, la tribu Bakhtiari se forma à la fin du 3e siècle de l'Égir, 10e siècle de l'ère chrétienne. C'est à partir de l'ère safavide qu'on les nomma Bakhtiari. Cette tribu migre saisonnièrement sur ces territoires qui comprennent de vastes étendues du sud-ouest de l'Iran, en particulier des régions du Khuzestan et du Lorestan. Pour les quartiers d'hiver et de Charmaha, les Bakhtiari, Ispahan et Kokiluye et Boyer Ahmad pour les quartiers d'été. À une certaine époque, le territoire des Bakhtiari s'étendait aussi dans la province du Fars, devenu de nos jours le fief principal des Rachraï. Le séjour Bakhtiari dure 4 mois dans les régions froides et 6 mois dans les régions chaudes. Ils passent le reste de l'année, c'est-à-dire 2 mois, à se déplacer entre ces deux régions. Les Bakhtiari comptent parmi les peuples iraniens qui se sont le moins mélangés aux étrangers. Non seulement d'un point de vue racial, mais également linguistique, leur langue étant le lori, culturel et littéraire. Au cours des différentes périodes historiques, ils mènent une vie rude et retirée au cœur des montagnes du Zagros, à l'ouest de l'Iran. Les monts élevés, les vallées profondes et étroites, les forêts denses et impénétrables, les cascades et les fleuves rebelles, en d'autres termes, l'enclavement et la difficulté à accéder à leur lieu d'habitation a ainsi contribué à les préserver en partie des guerres et des attaques que leurs compatriotes ont subies dans les autres régions du pays, comme par exemple celle d'Alexandre, des Arabes ou des Mongols. Le territoire Bakhtiari, s'étendant sur les hauteurs de Zagros et dans la plaine du Khuzestan, a souvent joui d'une grande importance stratégique et économique. Ainsi, au cours de l'histoire, les puissances colonisatrices ont souvent convoité ces territoires. Ce fut notamment le cas de l'Angleterre, qui, au XIXe siècle, essaya d'augmenter son influence au sein des tribus Bakhtiari en développant ses relations avec les Khan dans le Khuzestan. Ce territoire, jouissant de ressources pétrolières abondantes et d'une position géographique unique, présentait alors un double intérêt pour les Anglais. Les Bakhtiari sont organisés selon un système familial strict et hiérarchique. Au milieu du XIXe siècle, la Confédération Bakhtiari fut fondée à la tête de laquelle il se trouvait un Khan, chef de tribu, nommé Il-Khan. Il était secondé d'un adjoint appelé Il-Beg. Actuellement, cette confédération rassemble 2 sous-tribus, les Haftlang et les Chahallang, rassemblant elles-mêmes plusieurs clans menant une vie nomade. Hypothèse générale existe quant à l'origine de la tribu Bakhtiari. Certains démographes les considèrent comme des Perses, notamment au vu des origines linguistiques, de leur dialecte et nombre de leurs coutumes. Parmi ces spécialistes, citons William Lorimer, ancien sénateur et orientaliste américain, qui a longuement travaillé sur la langue et les dialectes Bakhtiari. D'après lui, non seulement les spécificités linguistiques, mais également physiques et culturelles font des Bakhtiari un peuple perse, s'étant réfugié dans les montagnes du Zagros au 7e siècle durant l'invasion arabe. Iraj Afshar, chercheur et iranologue iranien, partage cet avis. Il y a une indéniable ressemblance entre les modes vestimentaires des femmes Bakhtiari et ceux des femmes zoroastriennes de l'époque sassanide. De plus, la langue des Bakhtiari est proche de la langue pahlavi de l'époque sassanide et les mots turcs et arabes y sont très rares. Pour d'autres chercheurs, les Bakhtiari ne sont pas à l'origine iranien. C'est notamment l'avis d'Albert Tom Schindler, chercheur anglo-germain du XIXe siècle qu'il est considéré comme d'origine turque mongole, entré en Iran entre 1600 à 600 avant Jésus-Christ. La tribu Bakhtiari est organisée sur le modèle patriarcal où les responsabilités et les décisions sont à la charge des hommes qui doivent également subvenir financièrement à tous les besoins de la famille. La vie sociale est fortement influencée par les relations interfamiliales et interclaniques et la solidarité y est forte, quelle que soit l'activité menée. Les terres sont conservées grâce à un système de mariage intertribal. Un Bakhtiari tient à la chasse autant qu'à son arme et les nomades Bakhtiari ne se déplacent jamais sans leur arme, aujourd'hui bien souvent une forme de massue du fait de l'interdiction du port d'armes à feu. Les fusils ne manquent cependant pas et l'équitation et le tir, faisant partie des mœurs Bakhtiari, sont deux pratiques importantes enseignées tôt aux enfants. Eh bien, ici s'achève l'émission de cette semaine. Soyez nombreux la semaine prochaine aussi pour nous rejoindre sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité. D'ici là, au revoir et bonne semaine. Ansarallah liquidera les Jiais. Les percées des forces armées yéménites sur les fronts de Marib et Baïza ont mené la coalition saoudienne à recourir au déplacement de ses forces. Ayant laissé une grande quantité de munitions à Al-Baïza, les terroristes Al-Qaïda supplétifs des États-Unis et de la coalition saoudienne dans la guerre au Yémen prennent refuge à Laïj dans le sud yéménite. Tandis que la reprise de Marib, tout comme la victoire totale et complète de l'armée d'Ansarallah du Yémen, semble désormais inévitable. Les échecs que cumule Riyad, les uns après les autres, ne s'arrêtent pas. Alors que la liquidation à Al-Baïza des terroristes Daesh et d'Al-Qaïda se poursuit et que l'armée yéménite et les comités populaires à Ansarallah avancent sur plusieurs axes vers des positions de l'armée saoudienne et de leurs mercenaires, des sources yéménites ont fait état du déploiement des forces américaines dans la province de Laïj, dans le sud du pays. Selon les sources yéménites, l'armée américaine est stationnée le dimanche 8 août dans la ville de Yaffé. La semaine dernière, l'armée yéménite et Ansarallah ont mené des opérations à grande échelle contre les positions d'Al-Qaïda. Selon le site web yéménite Al-Akhbar al-Yamani, au cours de ces dernières semaines, les forces armées yéménites ont mené des opérations à grande échelle contre les positions du groupe terroriste Al-Qaïda dans la province d'Al-Baïza. Suite à ces opérations, de nombreux terroristes ont pris la fuite en direction de la province de Laïj. Le déploiement des forces américaines dans la province pourrait servir à soutenir les terroristes restants. Bien que le Pentagone ait annoncé il y a deux semaines un plan visant à former de nouveaux groupes armés au Yémen sous prétexte de lutter contre le terrorisme, les forces armées yéménites ont lancé une opération à grande échelle appelée Al-Nasr al-Mubin dans la province d'Al-Baïza contre les mercenaires américains et Al-Qaïda. Le site web Al-Shafa al-Alamiya a également rapporté la semaine dernière que des troupes américaines ayant quitté l'Afghanistan étaient arrivées à l'aéroport d'Aden dans le sud du Yémen et puis s'étaient rendues dans la province de Laïj. Pendant ce temps, les États-Unis ont également transféré le 12 juillet des dizaines de véhicules militaires, de drones, de systèmes Patriot à la base militaire d'Al-Anad dans la province méridionale de Laïj du Yémen. Selon des sources locales dans la province de Laïj, après l'arrivée des troupes américaines, l'Arabie saoudite a contraint les forces émiraties à quitter la base militaire d'Al-Anad. C'est dans ce contexte que les services de sécurité du gouvernement de salut national yéménite ont annoncé l'identification et la confiscation d'une cache d'armes contenant 27 engins explosifs improvisés de différentes tailles ainsi que des balles et des munitions dans la maison d'un des dirigeants d'Al-Qaïda Al-Baïza. Les bombes ont été stockées dans l'entrepôt pour cibler l'armée yéménite et Ansarallah du Yémen.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. La cérémonie de la validation de l'élection présidentielle iranienne a eu lieu hier, mardi, à Téhéran, en présence du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, et Ebrahim Raisi est devenu officiellement le nouveau président iranien. L'Iran est désormais doté d'un nouveau président de la République et bientôt l'Iran sera doté d'un nouveau gouvernement. Et demain, jeudi, il va y avoir la cérémonie d'investiture du nouveau président Ebrahim Raisi à laquelle vont participer, en jeu par des informations, les délégations de moins 60 de 13 pays du monde. Et quelle est en fait l'importance de cette nouvelle ère qui s'ouvre en République islamique d'Iran, de l'Iran qui dit que voilà, va en fait avoir une présence active tant au niveau régional qu'à l'échelle internationale. Et le nouveau président, lors de la cérémonie de la validation de l'élection présidentielle, dans son discours, a dit que voilà, il va tout faire pour mettre un terme aux sanctions injustes imposées à l'Iran, au peuple iranien. Mais il n'est pas question, ni pour lui, ni pour son gouvernement, de lier la subsistance du peuple iranien, si vous voulez, à l'étranger, au bon vouloir des puissances étrangères. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Toulouse un de spécialiste français des questions internationales, un très bon connaisseur des questions relatives à l'Iran. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Nerossi, merci de vos bonnes paroles. Et bon, naturellement, nous saluons tous vos auditeurs et votre invité.
Merci beaucoup. Et de notre invité de l'émission d'aujourd'hui, M. Dortiguier, de lui aussi, c'est un très bon connaisseur des questions relatives à l'Iran, des questions relatives au Moyen-Orient, un spécialiste des questions internationales. Il s'agit de M. Imadettine Ambrouni. M. Ambrouni, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et bonjour à votre invité, à tous les spectateurs et nos auditeurs. Et félicitations pour le peuple iranien et pour la République islamique d'Iran.
Merci beaucoup, M. Ambrouni. On va commencer avec vous, M. Ambrouni, l'émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet. Et je viens en fait d'évoquer le sujet en ce qui concerne l'importance de ce nouveau chapitre qui s'ouvre, si vous voulez, dans la politique iranienne, en République islamique d'Iran. Et quelle en est, si vous voulez, l'importance, après, M. Ambrouni?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est vrai, c'est une nouvelle ère pour la République islamique d'Iran, pour le peuple iranien, l'arrivée de M. Raisi, l'arrivée d'un homme responsable, d'un homme proche du peuple et proche du guide. Il faut rappeler que le peuple iranien, le peuple musulman d'Iran, le peuple révolutionnaire iranien, depuis 42 ans, n'a jamais cessé de donner des sacrifices pour la République islamique d'Iran, pour la révolution islamique iranienne. Et aujourd'hui, ce nouveau gouvernement, ce nouveau président, il doit servir ce peuple iranien qui souffre, entre parenthèses, car la crise sociale est forte, l'inflation est forte, l'attente populaire est très importante. Donc c'est un nouvel air que l'Iran d'aujourd'hui, à l'intérieur, pour le peuple d'abord, et aussi pour sa diplomatie à l'étranger. Car voyez-vous, depuis quelques jours maintenant, la pression elle est très forte contre M. Raisi, contre ce nouveau gouvernement. Les États-Unis, Israël, leurs alliés arabes dans la région font tout pour que ce gouvernement ne prenne pas les bonnes décisions. Et de toute façon, le peuple iranien a dit son mot et que l'attente elle est forte, comme je l'ai dit, et que M. Raisi doit servir d'abord le peuple iranien et la révolution islamique iranienne.
Monsieur Amrouni, on va revenir plus tard sur ce en fait, dernier point que vous venez d'évoquer, comme quoi en fait, ces derniers jours, il y a eu cette multiplication contre des pressions contre l'Iran et contre le nouveau président iranien. On va revenir plus tard sur ce sujet également. Monsieur Dortigué, vous avez entendu les explications de Monsieur Amrouni. Votre lecture des faits, s'il vous plaît.
Eh bien, bien sûr, naturellement, cette exposition qui est tout à fait qui complète, disons, qui montre le centre de ce qui occupe l'Iran, à savoir de se maintenir, de subsister, de s'affirmer et d'être reconnu, disons, dans ses efforts. Je dois dire que la présence, par exemple, du délégué de l'Union européenne à cette cérémonie de demain est également très significative, en plus, bien sûr, des représentants de chaque pays, car les liens entre l'Europe, pas seulement comme telle, et l'Iran, sont des très anciennes. Je me souviens que quand le général de Gaulle était venu, je crois que c'était en 1963, il disait qu'il était accompagné d'une délégation de l'Europe. C'était les industriels allemands qui le suivaient, et M. Pompidou était venu. Vous savez, il y a, une tradition, disons, de lien, tradition d'aide, disons, de l'Europe à l'Iran. Et elle se continuera, nous en sommes sûrs, quelles que soient les intrigues. Parce que c'est une question de puissance. Pourquoi ? Nous sommes dans un monde qui est, sans vouloir faire de généralité, qui affronte une crise. Une crise à tout point de vue, crise morale, crise économique, crise financière, crise sanitaire, etc. Et donc, nous sommes obligés, pour survivre, d'avoir une solidarité. C'est un terme dont on abuse, mais c'est un terme qui a une signification. C'est-à-dire que si on brise une chaîne entre les pays, eh bien, c'est le désordre qui s'accroît. C'est une sorte d'entropie de désordre. Tout ceci, c'est le devoir de chacun des États étrangers de se maintenir chacun à sa place et de supprimer tous ces chantages, tous ces, ce qu'on appelait le blocus, tous ces affamements, si je puis dire, contre chacun des pays. Monsieur Amrouni a très bien dit que, évidemment, vous avez tous ces gens qui sont des réactionnaires, peut-on dire entre guillemets, que ce soit certains États arabes, du Golfe, par exemple, qui sont en fait des États domestiques, voyez-vous, et que ce soit la tradition également anglo-saxonne, qui n'a pas été une bonne tradition, chacun le sait, dans ses relations avec l'Iran. Nous avons de grands pays qui, bien sûr, manifestent autour de l'Iran des ambitions naturelles, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit... Bon, eh bien, ces pays-là, bien sûr, ont intérêt aussi à ce qu'il y ait une relative stabilité dans les relations. Et donc, nous appelons, disons-nous, c'est pas que nous appelons de nos voeux, nous sommes sûrs que de par son passé, de par l'exemple qu'il a donné dans le passé, l'Iran pourra se maintenir et devra se maintenir. Cette conscience nationale qui n'a pas été comprise ici dans les revues de presse, vous savez, qui sont sous influence étrangère, on parle des influences israéliennes, on parle des influences américaines, c'est tout à fait vrai. Notre presse n'est pas libre, disons ici, d'exprimer réellement les choses comme elles sont, d'être objective. À travers cette cérémonie, bien sûr, qui transparaît quand même, dont les Français ont connaissance, nous sommes sûrs que un des premiers résultats sera obligatoirement quand même la baisse disons, l'extinction progressive des sanctions, de la politique des sanctions dirigées contre l'Iran. Qu'il y ait des formes d'agressivité nouvelles, ça, bien sûr, c'est, nous ne pouvons pas l'empêcher. C'est le rapport avec les États impériaux, c'est tout à fait, disons, naturel. Mais qu'il y ait une modification, qu'il y ait une extinction, disons, cette politique suivie jusqu'à M. Trump, par exemple, de l'étranglement de l'Iran, ceci, nous en sommes persuadés. Je crois que le sens de la cérémonie qu'il y a demain, par exemple, qu'il y a eu déjà qu'il y a demain, est celui en question. C'est-à-dire qu'il y a une page quand même qui se tourne. Elle se tourne par la force des choses, par la nécessité même de surmonter la crise mondiale, voyez-vous. C'est une nécessité, si je puis dire, pas seulement spirituelle, morale, c'est une nécessité matérielle. Et je crois que chacun en est conscient, bien sûr, commencé par l'Iran lui-même, qui a montré aussi, j'ai un dernier mot, sur le plan technologique récemment, vous savez, qu'il était capable d'accomplir des prouesses, et ces prouesses ne sont pas le fruit d'un hasard scientifique ou technologique. Elles sont également le symptôme, disons, qu'il y a une union dans le pays, qu'il y a une coordination des efforts, et que l'Iran est digne, disons, de la réputation qu'il a toujours eue dans l'Antiquité jusqu'à nos jours.
Monsieur Ambrouni, Monsieur Dortillier l'a dit que voilà, il va y avoir une importante délégation de l'Union européenne également qui va participer à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien qui aura lieu jeudi au Parlement. Sur ce sujet, en fait, le régime israélien, les responsables israéliens s'en sont pris en fait violemment à l'Union européenne, comme quoi, par exemple, l'Union européenne, c'est une province, si vous voulez, de l'entité israélienne qui ne doit pas, par exemple, agir indépendamment sur, en fait, cette question. Vous l'avez dit tout à l'heure également que, depuis quelques jours, il y a eu cette forte multiplication de pression contre l'Iran, contre le nouveau président iranien. Hier aussi, il y avait eu en fait des agissements suspects, qualifiés de suspects par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères dans la région du Golfe Persique et dans la mer d'Oman. De quoi, M. Ambrouni, sont-ils inquiets, les Israéliens, les Américains et leurs alliés?
Vous savez, le grand perdant aujourd'hui, c'est l'État sioniste. Les États-Unis cherchent à négocier. Vraiment, donc il fait le bras de fer avec le nouveau président et fait le maximum de pression pour que le nouveau président commence là où la délégation iranienne s'est arrêtée, alors que le nouveau gouvernement veut renégocier tout. Et donc ça, c'est un point fort pour le président Raisi sur la négociation nucléaire avec les États-Unis. L'Union européenne, il se retrouve besoin de l'Iran dans tout ce qui est pétrole et gaz parce qu'il est sous la pression russe. Donc l'intérêt de l'Allemagne, l'intérêt de la France, c'est d'aller vers l'Iran et de trouver des compromissions entre le nouveau gouvernement et l'Union européenne, car ce nouveau gouvernement, et je reviens à la nature de ce nouveau gouvernement, car on est dans une phase historique très importante depuis 30 ans. On n'a pas eu une cohérence entre la présidence, le guide et le Parlement iranien. Aujourd'hui, on a cette cohérence politique, cette cohérence idéologique et cette cohérence révolutionnaire. C'est très important de le dire. Et donc, d'abord, il y a une attente forte à l'intérieur de l'Iran. Le peuple va sanctionner directement le nouveau gouvernement s'il se trompe. Et donc, l'attente, elle est forte, et sociale et économique. Donc, M. Raisi a besoin d'une diplomatie économique intéressante et importante vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de l'Asie. Et donc, l'Union européenne essaie d'aller vers le nouveau gouvernement pour trouver des compromis entre l'Iran et l'Union européenne, et bien sûr, entre l'Iran et les États-Unis. Et donc, qui est perdant dans tout cet état géopolitique, c'est l'entité sioniste. Pour cette raison, l'entité sioniste a essayé depuis un mois à déstabiliser le nouveau président à l'intérieur même de l'Iran. Aujourd'hui, il le fait dans les mers, dans le golfe Persique et la mer d'Oman. Mais cette pression militaire, cette pression sécuritaire, on a vu la réponse iranienne, elle est claire, ferme et précise. Toute attaque de l'armée, de n'importe quelle armée étrangère, l'armée iranienne, les forces révolutionnaires iraniennes vont répondre d'où vient l'attaque. Donc aujourd'hui, ce nouveau président, ce nouveau gouvernement, il y a une grosse attente populaire iranienne. C'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est une diplomatie ouverte vers les voisins arabes, mais surtout vers l'Union européenne.
Monsieur Dortiguet, vous avez entendu Monsieur Amrouni, voilà, sur le plan de la politique étrangère, l'Iran, selon Monsieur Amrouni, va avoir, si vous voulez, cette interaction avec le monde extérieur, l'Union européenne, la Chine, la Russie également, de ses voisins, d'autant plus qu'en fait, les voisins ont occupé toujours une place de choix dans la politique étrangère de Téhéran, et le président Raïsi entend, si vous voulez, donner, renforcer cette priorité à l'égard des voisins dans sa politique étrangère. Et selon M. Amrouni, le perdant de tout cela, c'est le régime israélien. C'est de votre avis également?
Oui, en effet, c'est tout à fait évident. Je remercie vraiment M. Amrouni de cette précision, de cette franchise de propos. Il est le grand perdant, parce que le régime israélien, pourquoi, pour dire simplement, ne vit pas comme un État parmi les autres. Il vit comme un État sur les autres. En particulier, il vit de pression constante sur les États-Unis, on le sait. Il a également des appuis ailleurs, je ne veux pas préciser. Mais il a également, disons aussi, vis-à-vis de l'Union européenne, disons, une attitude qui ressemble à la mouche du coche dans la fontaine, c'est-à-dire que une attitude importune, voyez-vous, et qui naturellement atteint des limites, qui agacent, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'elles vont contre la nature, elles vont contre la réalité. On ne peut pas vivre avec une agitation constante, avec, disons, des scénarios de catastrophe, en étant au bord de la guerre, en agitant, par exemple, ses propres... ses propres sous-marins, vous savez, la classe Delphine, par là. Non, on ne peut pas, disons, bâtir une relation de cette sorte. Les relations entre les peuples sont des relations humaines, bien sûr, c'est des relations économiques. Elles ont toujours été le cas, vous voyez. Ce sont ce qu'on appelle des échanges nécessaires. Ces échanges doivent se continuer par la force des choses. Et je dois dire que cette stabilité qu'on a vue en Iran, bien sûr, vous avez des... Vous savez, je suis souvent en Iran, je vois les difficultés qu'ont les gens, je connais les difficultés d'approvisionnement, surtout les questions de prix, les spéculations même qui ont été faites par certains malhonnêtes. Bon, tout ceci est vrai. Mais il y a, disons, une reconnaissance par ceux qui y vont et par ceux qui sont à l'extérieur, qui connaissent bien de votre pays, qui connaissent bien votre pays, c'est sa capacité technique, sa capacité scientifique, qui d'ailleurs n'est pas tellement diffusée ici dans la presse, voyez-vous. Mais quand même, je connais beaucoup de gens qui vont en Iran, y compris dans la bourgeoisie parisienne, voyez-vous, des beaux quartiers, comme on dit, qui reviennent et qui témoignent de ce qu'ils voient, à tous les niveaux. Et donc, ceci, voyez-vous, transparaît à travers ces fameux efforts israéliens de contrôle de la presse, etc., d'agitation. Tout ceci, disons, fait que je crois que l'entité sioniste, ne peut pas continuer de dominer comme elle l'a fait. Elle prétend dominer, elle fait des pressions, mais même à l'intérieur des États-Unis, je le vois avec la politique de M. Biden, on comprend que les Américains veulent suivre aussi et sont obligés de suivre une politique en fonction de leurs intérêts réels et non pas en fonction de celui qui se présente comme leur protégé et qui en réalité voudrait jouer au patron. Ceci est impossible. Voyez-vous, on ne peut pas continuer de cette façon à contrôler, comme le font les Israéliens, la politique internationale. Ceci, ils auront contre eux des gens qui les ont soutenus, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie. Ils ont atteint un seuil, disons, de tolérabilité. Ceci, ils sont, si je puis dire, leurs propres ennemis. Voilà, c'est ça que je peux... Et je crois qu'à l'intérieur même de l'entité sioniste, beaucoup de gens se rendent compte, bien sûr aussi, de ce déséquilibre profond. Donc, pour revenir à l'Iran, je crois que l'Iran a intérêt... c'est pas un conseil que je lui donne, non, c'est une constatation que nous faisons, à élargir sa base technologique, à développer son instruction, et les fruits sont reconnus. Quant aux relations extérieures, notre propre vœu, disons, de visiteurs de l'Iran, de connaisseurs, de connaisseurs de personnes à l'Iran, c'est qu'il y ait, disons, une amélioration des relations entre elles et les peuples turcs, les peuples turciques, comme on dit.
Merci.
Je crois que c'est une donnée d'ailleurs qui est intérieure à l'Iran, vous savez, et c'est ce rapport avec les peuples turcs. Et je dois dire que, justement, l'intérêt de l'entité sioniste, c'est de créer des animosités. Et là, là-dedans, disons, l'union est très importante, et je crois qu'elle se fera par la force des choses. Elle se fera, disons, par une nécessité de vie économique. Je reviens toujours, la technique, la matérialité, disons, est le support de l'esprit.
Monsieur Ambrouni, en fait, en Iran également, on dit que voilà, la politique doit être également, sur le plan de la politique étrangère, cette orientation vers l'Est, vers la Chine, vers la Russie, vers l'Inde, vers, si vous voulez, les BRICS, cette importante institution, vers en fait l'organisation de Shanghai. Président Ambrouni, est-ce que cela va avoir également son impact au niveau international, dans le sens, si vous voulez, du renforcement de l'alliance Iran, Chine, Russie, Inde et autres pays face, si vous voulez, à l'hégémonie américaine?
Vous savez, la force de la diplomatie iranienne et de la révolution islamique iranienne, c'est le slogan que l'imam Khomeini a lancé, paix à son âme, dès le début de la victoire de la révolution islamique, c'est ni Est ni Ouest, République islamique. Et donc, le fait de dire ni Est ni Ouest, c'est pas seulement un slogan. La République islamique d'Iran, sa géopolitique, sa stratégie, ce n'est pas d'être complètement à l'Est, ni complètement contre l'Ouest. Le peuple iranien, le gouvernement iranien n'est pas anti-occidental. Il faut le dire très très fort, le peuple iranien c'est un peuple moderne, c'est un peuple qui aime les peuples occidentaux, y compris le peuple américain, il n'y a aucun problème. Et donc ce n'est pas une anti-occidentalisation que le peuple iranien vit à l'intérieur de sa politique ou même à l'intérieur de sa culture. La culture iranienne, c'est une culture mosaïque, c'est une culture forte qui est ouverte au même temps à l'Orient et au même temps à l'Occident. C'est ça ce qui fait la force d'un Iranien. Donc cette politique qui va vers la Chine avec l'accord stratégique de 25 ans ou vers la Russie pour développer certaines relations économiques, on voit que les échanges entre la Russie et l'Iran ne sont pas très très importants, très très fortes, mais aussi le lien que la République islamique a avec ses voisins arabes, avec les Émirats arabes unis, avec aussi l'Inde, donc avec l'Union européenne. C'est très important de le redire que la politique iranienne, elle est ni à l'Est ni à l'Ouest. Et ce gouvernement, ce nouveau gouvernement, en fait, il va rétablir en fait l'équilibre. Parce qu'à un moment, on a vu que les réformateurs, ils étaient trop vers l'Ouest. Et à certains moments, on avait des gouvernements plus ou moins conservateurs, ils voulaient être trop à l'Est. Donc on a besoin d'un gouvernement révolutionnaire qui voit d'abord l'intérêt de la République islamique d'Iran, mais surtout l'intérêt de son influence régionale et internationale. Aujourd'hui, l'Iran, c'est une force montante internationale. Ce n'est pas simplement une force régionale. Donc cette force internationale, il faut qu'elle ait les moyens techniques, technologiques, économiques, sociaux, pour qu'elle s'assoie face à face aux États-Unis.
Monsieur Dortiguet, Monsieur Ambrouni a fait allusion à un point, me semble-t-il, très très important. L'Iran n'est pas contre l'Occident, l'Iran n'est pas contre l'Europe. L'Iran l'a dit en fait à plusieurs reprises, entretient des relations avec l'ensemble du monde. Il y a une exception, si c'est en fait c'est le régime israélien. L'Iran n'est pas contre l'Occident. L'Iran, je viens de le dire, l'Iran est contre l'hégémonie américaine.
Oui, en effet. C'est-à-dire qu'on n'entend pas l'hégémonie américaine, une certaine politique américaine, disons, guidée par des intérêts qui ne sont pas naturellement, forcément, en faveur de l'ensemble des industries américaines, mais des intérêts, disons, du développement de la société américaine. Et il y a un intermédiaire, c'est-à-dire, on revient toujours à l'entité sioniste, rapidement. Quand, en 1939, M. Ben-Gurion avait dit que, dans un discours à la jeunesse que j'avais lu à la Bibliothèque nationale, la jeunesse sioniste, il avait dit « Nous servirons d'intermédiaire entre l'Europe et l'Asie ». Non, entre l'Occident et l'Asie. Non, ils ne servent pas d'intermédiaire, ils servent au contraire d'obstacle, voyez-vous, pour pouvoir justement bénéficier des tensions. et, disons, vivre à l'occasion de ces tensions. Et M. Amrouni a très bien dit aussi, je reprends, que la politique de l'imam Khomeini, cette formule, disons, qui était ni Est ni Ouest, est très juste. C'est-à-dire une politique indépendante. Je dois dire que dans tous les États, je dis ici à la radio française, dans à la radio de langue française, de tous les États que, dans le monde que l'Iran, disons, a eu de proche de son développement, il faut compter l'Europe. On le voit dans la politique au XIXe siècle, par exemple, que ce soit les voyages faits en Occident, en Allemagne, etc., par Nasreddin Shah, il y a, disons, un lien direct de culture. Je terminerai par cette phrase, les Européens viennent d'Asie. C'est une grande formule du philosophe allemand qui parlait en français, qui écrivait en français, Leibniz, au XVIIe siècle. C'est vrai qu'il y a, disons, nous avons une racine, un lien, disons, continu, nous, entre les Européens et les Asiatiques.
Merci.
Regarde, c'est plateau d'Iran. Et je dois dire que c'est le rôle d'une radio, bien sûr, comme vous, c'est de diffuser, justement, cette vérité contre ceux qui ne font que répandre des brouillards de mensonges.
Merci beaucoup, Pierre Dortillier, spécialiste français des questions internationales, d'avoir été avec moi en ligne pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à vous, Béchev Imadedine Amrouni, analyste politique et spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
Pays des merveilles. Des merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé notre visite dans la province de Charmahal-e-Bakhtiari. La randonnée de cette semaine vous emmènera à vous promener dans la belle nature de cette province. Vous allez connaître les tribus de cette province et leurs coutumes. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Charmahal-e-Bakhtiari est l'une des 30 provinces d'Iran. Elle est située dans le sud du pays et sa capitale est Shahrekord. L'histoire de la province est liée à celle de la tribu Bakhtiari qui descend du peuple Lor. Les Bakhtiari peuvent être divisés en deux sous-tribus, les Haftlang et les Charlang, qui ont elles-mêmes des variantes territoriales. Le territoire Bakhtiari, à une certaine époque, s'étendait aussi sur les provinces du Fars et du Khuzestan. La province est dotée de plusieurs traditions uniques liées au style de vie tribaux. On peut noter, par exemple, des formes spécifiques de musique, de danse et de vêtements. Les Bakhtiari sont une tribu d'Iran méridional, habitant essentiellement dans les provinces iraniennes du Lorestan, d'Ilam, de Charmahal-e-Bakhtiari, Kokiluye-Boyer-Ahmad, ainsi que dans certaines parties du Khuzestan, et plus précisément dans les régions montagneuses du Zagros, dans le sud-ouest de l'Iran. 1 600 000 personnes appartenant à différentes tribus Bakhtiari vivent actuellement en Iran. Cependant, seule une minorité d'entre elles continue de pratiquer le nomadisme. Le mot Bakhtiari apparaît pour la première fois dans l'ouvrage de Hamdullah Mostofi, Le Tarikh Gozide, Sélection d'histoire. Il y emploie ce mot pour désigner le peuple lor. Selon lui, la tribu Bakhtiari se forma à la fin du 3e siècle de l'Égir, 10e siècle de l'ère chrétienne. C'est à partir de l'ère safavide qu'on les nomma Bakhtiari. Cette tribu migre saisonnièrement sur ces territoires qui comprennent de vastes étendues du sud-ouest de l'Iran, en particulier des régions du Khuzestan et du Lorestan. Pour les quartiers d'hiver et de Charmaha les Bakhtiari, Ispahan et Kokiluye et Boyer Ahmad pour les quartiers d'été. À une certaine époque, le territoire des Bakhtiari s'étendait aussi dans la province du Fars, devenu de nos jours le fief principal des Rachraï. Le séjour Bakhtiari dure 4 mois dans les régions froides et 6 mois dans les régions chaudes. Ils passent le reste de l'année, c'est-à-dire 2 mois, à se déplacer entre ces deux régions. Les Bakhtiari comptent parmi les peuples iraniens qui se sont le moins mélangés aux étrangers. Non seulement d'un point de vue racial, mais également linguistique, leur langue étant le lori, culturel et littéraire. Au cours des différentes périodes historiques, ils mènent une vie rude et retirée au cœur des montagnes du Zagros, à l'ouest de l'Iran. Les monts élevés, les vallées profondes et étroites, les forêts denses et impénétrables, les cascades et les fleuves rebelles, en d'autres termes, l'enclavement et la difficulté à accéder à leur lieu d'habitation a ainsi contribué à les préserver en partie des guerres et des attaques que leurs compatriotes ont subies dans les autres régions du pays, comme par exemple celle d'Alexandre, des Arabes ou des Mongols. Le territoire Bakhtiari, s'étendant sur les hauteurs de Zagros et dans la plaine du Khuzestan, a souvent joui d'une grande importance stratégique et économique. Ainsi, au cours de l'histoire, les puissances colonisatrices ont souvent convoité ces territoires. Ce fut notamment le cas de l'Angleterre, qui, au XIXe siècle, essaya d'augmenter son influence au sein des tribus Bakhtiari en développant ses relations avec les Khan dans le Khuzestan. Ce territoire, jouissant de ressources pétrolières abondantes et d'une position géographique unique, présentait alors un double intérêt pour les Anglais. Les Bakhtiari sont organisés selon un système familial strict et hiérarchique. Au milieu du XIXe siècle, la Confédération Bakhtiari fut fondée à la tête de laquelle il se trouvait un Khan, chef de tribu, nommé Il-Khan. Il était secondé d'un adjoint appelé Il-Beg. Actuellement, cette confédération rassemble 2 sous-tribus, les Haftlang et les Chaharlang, rassemblant elles-mêmes plusieurs clans menant une vie nomade. Deux hypothèses générales existent quant à l'origine de la tribu Bakhtiari. Certains démographes les considèrent comme des Perses, notamment au vu des origines linguistiques, de leur dialecte et nombre de leurs coutumes. Parmi ces spécialistes, citons William Lorimer, ancien sénateur et orientaliste américain, qui a longuement travaillé sur la langue et les dialectes Bakhtiari. D'après lui, non seulement les spécificités linguistiques, mais également physiques et culturelles font des Bakhtiari un peuple perse, s'étant réfugié dans les montagnes du Zagros au 7e siècle durant l'invasion arabe. Iraj Afshar, chercheur et iranologue iranien, partage cet avis. Il y a une indéniable ressemblance entre les modes vestimentaires des femmes Bakhtiari et ceux des femmes zoroastriennes de l'époque sassanide. De plus, la langue des Bakhtiari est proche de la langue pahlavi de l'époque sassanide et les mots turcs et arabes y sont très rares. Pour d'autres chercheurs, les Bakhtiari ne sont pas à l'origine iranien. C'est notamment l'avis d'Albert Tom Schindler, chercheur anglo-germain du XIXe siècle, qui les considérait comme d'origine turque mongole, entrée en Iran entre 1600 à 600 avant Jésus-Christ. La tribu Bakhtiari est organisée sur le modèle patriarcal où les responsabilités et les décisions sont à la charge des hommes qui doivent également subvenir financièrement à tous les besoins de la famille. La vie sociale est fortement influencée par les relations interfamiliales et interclaniques et la solidarité y est forte, quelle que soit l'activité menée. Les terres sont conservées grâce à un système de mariage intertribal. Un Bakhtiari tient à la chasse autant qu'à son arme et les nomades Bakhtiari ne se déplacent jamais sans leur arme, aujourd'hui bien souvent une forme de massue du fait de l'interdiction du port d'armes à feu. Les fusils ne manquent cependant pas et l'équitation et le tir faisant partie des mœurs Bakhtiari sont deux pratiques importantes enseignées tôt aux enfants. Eh bien, ici s'achève l'émission de cette semaine. Soyez nombreux la semaine prochaine aussi pour nous rejoindre sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité. D'ici là, au revoir et bonne semaine. Thank you.